Nous sommes le premier dimanche de la période estivale et j'ai pris l'habitude ces dernières années de choisir un personnage que nous suivons pendant les 5 ou 6 dimanches où je suis présent pendant la période estivale. Et donc c'est ce que nous allons commencer à faire aujourd'hui de nouveau, des traditions auxquelles où il est bon de pouvoir sacrifier quelque chose parce qu'elles sont, bonnes je pense. Et donc, j'ai pensé que nous pourrons, pendant ces prochains dimanches, jusqu'à mi-août, parler du prophète Élie et suivre ce prophète dans ce qui nous est dit de lui dans le livre des rois où il nous a parlé. Et donc, je vous invite à lire maintenant quelques versets avec cette apparition du prophète sur la scène et nous chercherons à dire quelques mots du contexte dans lequel il se trouve pour comprendre ce qu'il se passe. Donc, nous lisons dans le premier livre des rois, chapitre 16 au chapitre 29. Un roi, chapitre 16, et de verset 29. Ça décrit le règne d'Akab. Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Et comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Il fabriqua un poteau sacré. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé, pour irriter le Seigneur, le Dieu d'Israël. À son époque, un certain Hiel de Bethel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Amiram, son aîné. Il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura cette année-ci pas de rosée, ni de pluie, sauf sur ma parole. Et puis nous lisons un deuxième texte dans l'épître de Jacques, qui nous parle aussi du prophète Élie. Jacques 5, les versets 17 et 18. C'est dans le cadre d'une invitation à la prière. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Le personnage d'Élie fait partie de ces personne haute en couleur de l'Ancien Testament. Il apparaît sur la scène sans crier gare. Il disparaît tout aussi soudainement, emporté sur un char de feu. Ses interventions publiques sont courtes, mais intenses. Elles alternent avec de longues périodes de retrait. L'homme public multiplie les défis, les confrontations. L'homme privé aura besoin de soutien pour survivre et d'être relevé lorsqu'il s'écroulera. Avec Élie, la foi se fait confrontation, mais elle est aussi persévérance dans le secret et prière solitaire. Tout dans cette histoire d'Élie se joue en opposition. Élie, le fidèle, s'oppose à Akab, l'infidèle. L'homme venu de nulle part défier le roi installé dans sa capitale. La parole du prophète vient s'opposer à la parole du roi. Derrière cette confrontation d'homme à homme, il y a aussi la reine Jézabel qui manœuvre en souterrain, incarnant le cynisme politique et le pouvoir occulte. Les camps sont clairement définis, le bien d'un côté, le mal de l'autre, la fidélité à Dieu d'un côté, le culte des idoles de l'autre. Notre vie, reconnaissons-le, ne se taille pas toujours aussi nette. Nous ne pouvons pas nous proclamer d'emblée que nous serons les champions du bien et de la fidélité et que tous les autres ne seraient que à côté. Nous avons à évaluer finement les choses parfois, à savoir faire la part des choses en finesse. Pourtant, pour nous aussi, certaines positions méritent d'être défendues publiquement, clairement. Élie nous interrogera sur notre capacité à nous lever, à prendre position, à tenir ferme, à le faire justement pour ce qui vaut la peine, mais à le faire vraiment là où c'est nécessaire. Cet homme s'est démarqué du consensus de son époque pour s'attacher à Dieu. Il est à sa façon entré en résistance. Il nous interroge aussi sur notre capacité à rester fidèles à nous-mêmes, à nous attacher à nos valeurs, à ne pas nous laisser emporter par toute influence ou par toute mode qui passe. Quelques mots maintenant pour décrire dans quel contexte nous découvrons cet homme, Élie. Élie apparaît, c'est vrai, à un moment assez sombre de l'histoire d'Israël. Et les chapitres qui précèdent le texte que nous avons lu nous décrivent une sorte de dégringolade assez tragique du royaume du Nord. Je situe rapidement les choses, je ne ferai pas une heure d'histoire, je vous rassure. 60 ans avant Élie, seulement 60 ans avant Élie, c'était encore l'âge d'or du peuple d'Israël. Salomon avait fait de son état un état unifié, reconnu sur la scène internationale, au cœur d'un réseau commercial important. Une capitale, Jérusalem, rénovée, de nombreuses villes fortifiées, construites. Mais les alliances politiques faites par Salomon avaient introduit des cultes idolâtres. Et dès la mort de Salomon, l'addition se paye cher. Le royaume est divisé en deux. La partie sud, petite, autour de Jérusalem, qu'on appelle Juda, reste plus ou moins unie autour de Dieu, autour du temple, avec un pouvoir assez stable autour de la lignée de David, de Salomon. La partie nord, la plus grande, vit des temps beaucoup plus chaotiques. Sur les 7 rois qui se succèdent pendant ces 60 ans, jusqu'à Élie, il y aura 3 coups d'État, et avec chaque fois élimination totale des familles royales qui sont remplacées. Spirituellement aussi, on assiste à une vraie descente. Le premier roi du royaume du Nord, Jéroboam, juste après le schisme, a placé le souci politique avant la fidélité à Dieu. C'était impossible pour lui, politiquement, de considérer que les gens de son royaume puissent encore adorer à Jérusalem, dont ils venaient de se couper. Alors du coup, Jéroboam crée de nouveaux sanctuaires. Et en créant de nouveaux sanctuaires, un nouveau culte, il prend ses libertés. Il fait représenter Dieu par 2 veaux d'or. Il choisit de changer les dates des fêtes, de ne pas se soumettre à la loi de Dieu, aux prescriptions de la loi de Dieu. Il veut se démarquer et il prend ses libertés. Il prend la liberté aussi de choisir parmi les prêtres ce qu'il désire. Et c'est le début du grand dérapage. Jéroboam s'est cru maître de ce que Dieu a commandé. Il a pensé pouvoir disposer à sa guise des commandements du Seigneur tout en disant qu'il le servait et qu'il cherchait à le servir. Le péché de Jéroboam, c'est cela. Penser que l'on sert le Seigneur, dire des lèvres que l'on sert le Seigneur et finalement se servir de ce que Dieu dit comme on le veut. C'est la porte ouverte à tous les autres glissements, à tous les autres dérapages. Pensons-y juste pour nous aussi. Pour nous aussi, nous ne disposons pas de la parole de Dieu. Nous n'avons pas à y prendre simplement ce qui nous plaît et à laisser de côté ce qui nous déplaît. Nous n'avons pas à considérer comme négligeable ce qui ne nous convient pas. Chaque fois que dans l'histoire, on a adopté ce genre de comportement, la descente spirituelle n'a pas été loin. Les successeurs de Jéroboam dans le royaume du Nord, marcheront dans la même voie. Et voilà que la violence, et voilà que la soif du pouvoir s'installe. On arrivera même à une situation de guerre civile entre les Israélites du Nord et leurs frères israélites du Sud. Ça durera pendant 25 ans environ. La paix et la stabilité viendront avec Omri, le père d'Akab, qui est ce roi contemporain d'Édie. Omri est un général. Il profite de sa situation de général pour faire un coup d'État, pour prendre le pouvoir. Mais il est aussi un fin stratège qui saura organiser son royaume. Il se choisit une nouvelle capitale, Samarie, qui est une capitale vraiment au sommet d'une colline, bien centrale, un peu comme Jérusalem était aussi au sommet d'une colline. Il fait le pendant. Et surtout, Samarie est sur les routes commerciales entre le nord et le sud, avec la Phénicie au nord, avec l'Égypte au sud. Il sait mettre aussi fin à la guerre civile avec le royaume du sud. Il mène une politique d'alliance. Et en particulier, il va marier son fils Akab à une fille du roi de Sidon, Jézabel. Et ce lien avec les Phéniciens, les gens de Sidon, de Tyr, de Sidon, qui avaient beaucoup de commerce maritime, ce lien avec les Phéniciens va apporter beaucoup d'argent, beaucoup de prospérité. Le pouvoir d'Omri devient tellement conforté que bien après sa mort encore, les Assyriens appelleront Israël le pays d'Omri. Des années après encore, dans les documents assyriens, c'est comme ça qu'on en parle. Mais le résultat spirituel est désastreux là encore. En effet, la porte s'ouvre maintenant au culte des dieux de toutes ces nations alliées. Le culte du dieu Baal en particulier se développe. Baal était à la fois le dieu de la guerre, le dieu de la foudre, le dieu de la fertilité. On a découvert de nombreuses tablettes dans une ancienne ville en Syrie, une ancienne ville d'Ougarit, qui sont très éclairantes, ces tablettes, sur la religion des Cananéens. Et on a découvert donc dans toutes ces inscriptions les noms, les adjectifs qu'on associait au dieu Baal. Et c'est impressionnant de voir tout ce qu'il recouvrait comme qualificatif. Il est vainqueur, il est vaillant, il est roi, il est juge, il est prince, il est très haut, le seigneur de la terre. Il chevauche les nuages pour dire qu'il est le maître de la création, de la pluie, etc. On lui donne aussi le nom du dieu de l'orage et de la foudre. On lui associe le pouvoir d'accorder la fertilité. Et tout cela, quand on est dans un pays agricole et que la vie dépend beaucoup des récoltes, cela compte. Alors évidemment, nous pouvons nous dire, ces dieux, ces gens qui ont des dieux de tous ordres, etc., qui multiplient les dieux, qu'est-ce que c'est que cela? Disons-nous que nous ne faisons pas beaucoup mieux. Pour nous, pour qui l'argent devient une vraie raison de vivre, pour qui tout dépend des valeurs boursières, etc. Nous ne faisons pas beaucoup mieux que ces gens-là aujourd'hui. C'est dans la nature de l'homme que de se donner des absolus et de chercher ce qui permet simplement la prospérité. C'est ce qui se passe là, à cette époque. Et donc avec Akab et Jézabel, le culte de Baal s'installe officiellement maintenant dans la capitale, à Samarie. Nous l'avons lu, un temple est bâti pour Baal. Des hauts lieux sont aussi érigés dans tout le pays. Les prêtres de Baal prennent en charge toute la vie religieuse d'Israël. On associe à Baal une divinité féminine, Asherah, qui est la déesse mère. Elle avait une déesse qui avait 70 enfants, donc pour dire sa fécondité, dont Baal d'ailleurs était un des enfants d'Asherah. Son culte se pratiquait autour d'un poteau sacré, probablement un symbole sexuel. Et il y aura aussi un de ces poteaux d'Asherah à Samarie, nous l'avons lu. Bilan, nous dit le texte, Akab fit encore plus que les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il fait aussi reconstruire Jéricho, nous l'avons lu, malgré l'interdiction que le Seigneur avait donnée. Tout cela dit le rejet total du Dieu d'Israël. Ce que Dieu a dit ne compte plus simplement. Ce qu'il a prescrit n'a plus aucune valeur. On a tourné la page, on passe à autre chose. On attend sa vie, on attend sa prospérité, on attend ses récoltes du culte des Baals. Yahvé, le Dieu d'Israël, n'est plus vraiment d'actualité. Et ça roule. La vie continue. La prospérité, les saisons, les récoltes sont au rendez-vous. Et le peuple dans son ensemble semble suivre le mouvement. Après tout, on ne vit pas plus mal comme ça. Bien des gens aujourd'hui vivent aussi avec cette pensée. Dieu pour eux n'est plus d'actualité. Il n'influence pas leur vie. Et comme tout va bien, on ne se pose pas trop la question. On vit bien sans lui, c'est tout. Et le ciel ne nous tombe pas sur la tête pour autant. Donc tout va bien. On peut continuer. La Bible nous rappelle que s'il en est ainsi, c'est parce que Dieu déploie des trésors de patience. C'est parce que dans sa miséricorde, comme nous le dit Jésus, il fait lever son soleil sur les justes comme sur les méchants, pour que chaque jour puisse encore être un jour de grâce. Viendra le jour du grand bilan. Mais aujourd'hui, c'est comme au temps d'Akab, le temps de la patience de Dieu. D'un Dieu qui ne bouleverse pas tout parce qu'on l'abandonne, qui ne chambarde pas tous les équilibres malgré le fait qu'on le rejette. Pensons simplement que dans l'intention de Dieu, cette patience est un appel. Cette patience est un appel, est une invitation de grâce et d'amour à nous tourner vers lui, mais surtout pas une caution ou un impuissant laisser-faire. Dieu donc, au temps d'Abraham, au temps d'Akab, le Dieu d'Israël, est rejeté aux franges, un peu comme nous, comme pour nous aujourd'hui. Et dans notre récit, c'est absolument sans prévenir que le Dieu d'Israël, repoussé par Akab, vient s'inviter dans sa vie et vient se rappeler à sa conscience. Un homme qui surgit de nulle part, une parole directe, précise, qui vient bouleverser tout. Un rappel de l'existence du Dieu vivant qu'on a voulu laisser aux franges. Et voilà, en une phrase, en une rencontre, la fausse tranquillité du roi Akab définitivement gâchée. On ne se débarrasse pas de Dieu comme ça. Le message est une affirmation forte. Vivant est le Seigneur d'Israël, dit cet homme qui se présente devant Akab. Un rappel vigoureux de l'identité du Dieu d'Israël. C'est Yahvé, le Seigneur, et nul autre. Et ce Seigneur est proclamé vivant. Une affirmation forte, donc. Ce message est aussi une confession. Akab a devant lui un homme. Il se présente comme un serviteur de Dieu, comme quelqu'un qui se tient debout devant le Seigneur. Et visiblement, cet homme est aussi debout pour Dieu et de la part de Dieu. Mais le message sur Dieu que reçoit Akab passe aussi par l'engagement de cet homme envers Dieu. Il parle de sa parole, il parle du Dieu vivant. Et puis le message est un défi. Il va droit au but. Baal est censé apporter la pluie et la fertilité. Eh bien, dit le message, il n'y aura plus ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est un bras de fer, un véritable bras de fer qui est annoncé là. Mais pas sur le mode, on va voir qui est plus fort, est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est le Seigneur. La parole est claire, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée. D'emblée, c'est le Seigneur qui limite Baal, qui fixe ce qui va se passer ou qui ne va pas se passer, sur le terrain même du prétendu pouvoir de Baal. Mais l'homme qui parle est pleinement impliqué. Il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Et c'est l'homme qui parle qui dit ça. La prétention semble démesurée si c'est simplement un homme qui parle en son nom. Elle serait démesurée s'il n'y avait pas la parole du début, « Vivant est le Seigneur, le Dieu d'Israël, que je sers. » Un homme, un message. L'homme porte un nom qui déjà dit tout. Il s'appelle Eliyahu. Eli, ça veut dire « mon Dieu ». Eliyahu, ça veut dire « mon Dieu, c'est Yah, c'est Yahvé ». Vous vous rendez compte? À ce moment-là, dire « mon Dieu, c'est Yahvé ». C'est un nom de résistant. Un nom de résistant à la normalisation que Akab est en train d'effectuer dans son pays. L'a-t-il reçu de ses parents? S'il l'a reçu de ses parents, ça nous rappelle l'importance décisive des valeurs à transmettre au sein de nos familles, face à toutes les pensées qui veulent nous formater par ailleurs. C'est important, ce que l'on communique dans nos familles. Mais ce nom reçu, Élie le porte vraiment et il l'assume vraiment. Et il assume son nom, le Seigneur est mon Dieu, jusque devant le roi qui prétend tout le contraire. Et ça rappelle que notre identité chrétienne ne se résumera jamais en un héritage parental, mais qu'elle doit être assumée personnellement, concrètement, en situation. L'homme, Élie, donc, vient de Galade, nous a-t-il dit. C'est peut-être les renseignements secrets d'Akab qui lui ont dit ça, finalement. Hein. De l'autre côté du Jourdain, Galade, c'était la partie à l'est du Jourdain. Il est Tishbite, ce qui veut probablement dire de la ville de Tishbé. Galade est une région plutôt sauvage, accidentée, des collines aux forêts touffues, des vallées habitées par des bêtes sauvages, des étendues de solitude brisées par le seul bruit des ruisseaux. Élie s'est forgé certainement un caractère dans ces contrées. Il est probablement plus solitaire que convivial. Il interviendra toujours, en tout cas pour Akab, comme quelqu'un qui surgit d'ailleurs, tout comme maintenant il vient de ces contrées un peu lointaines. Le message est très personnalisé, vous l'aurez remarqué. Élie donne sa parole comme repère pour la fin de la sécheresse qu'il annonce. Il dit « Il n'y aura pas de pluie pendant ces années, ni de rosée, sauf sur ma parole. » Cela veut dire qu'il reviendra en personne pour annoncer à Akab le moment choisi par le Seigneur pour donner la pluie. Mais qu'est-ce qui autorise un homme à parler comme cela? Qu'est-ce qui autorise un homme à impliquer le Seigneur de cette façon? À ma parole, ça va se passer. Serait-ce Élie lui-même qui fait la pluie et le beau temps? Le rapport entre Dieu et Élie dans la situation que nous considérons n'est pas évident à cerner dans cette première parole. En fait, on peut imaginer deux situations. La première serait, disons, la situation classique du prophète. Élie aurait reçu du Seigneur l'ordre d'annoncer à Akab la sécheresse. Et si Élie parle comme il parle, c'est parce qu'il a reçu ce message du Seigneur. Il dit avec force ce que le Seigneur lui a dit de dire. Ce qui est un peu difficile dans cette compréhension des choses, c'est que le message d'Élie ne commence pas par la formule « Ainsi parle le Seigneur ». Lorsque les prophètes disent une parole qu'ils ont reçue, souvent, c'est comme ça qu'ils introduisent cette parole. Et dans la suite du récit, à plusieurs reprises, il est dit clairement « La parole du Seigneur fut adressée à Élie ». Et à d'autres endroits, lorsqu'Élie parle, s'adresse au roi ou à d'autres situations, il dit « Ainsi parle le Seigneur ». Mais pas ici, dans cette première intervention. Alors, comment interpréter ça? On peut penser que toutes ces attestations qui viennent dans l'ensemble du récit sont suffisamment fortes pour dire qu'Élie était prophète. Et que s'il ne précise pas lors de sa première rencontre qu'ainsi parle le Seigneur, c'est que tout est clair pour lui, il a reçu ce qu'il a à dire du Seigneur, et il peut l'exprimer avec toute sa force, avec une pleine autorité, parce qu'il sait d'où vient son message. Mais donc ça, c'est une première manière de voir les choses, que Élie simplement donne ce message parce qu'il a reçu l'ordre du Seigneur de dire exactement le message qu'il adresse à Akab. Une deuxième manière de voir les choses est que cette première démarche d'Élie vers Akab serait plutôt une initiative d'Élie. Une initiative d'Élie dans son souci pour l'honneur du Seigneur. Ce serait de voir que d'une certaine manière, c'est lui, Élie, qui choisit de proposer ce défi. Et que c'est lui qui choisit d'annoncer ce défi haut et clair à Akab. Alors certes, il ne s'agit pas d'une simple lubie personnelle. Élie a soin de dire à Akab qu'il se tient devant Dieu, qu'il est un serviteur du Seigneur. Il est à son service, c'est à ce titre qu'il s'adresse à lui. Mais dans cette deuxième manière de voir, l'idée de la confrontation est plutôt venue au cœur d'Élie. C'est lui qui l'a mise en œuvre. Il n'est pas juste celui qui transmet un message reçu du Seigneur, mais celui qui dit la façon dont il envisage de se mettre au service du Seigneur. D'où les mots qu'il choisit pour se présenter et pour dire aussi l'implication personnelle qui est la sienne. Alors je dirais qu'en ce qui me concerne, j'opte plutôt pour cette seconde manière de voir les choses, qui implique plus, un peu plus fort, l'initiative d'Élie. Alors je vous donne mes raisons, il y en a deux. La première est le fait qu'ailleurs, Élie emploie la formule « ainsi parle le Seigneur ». Et peut-être que ça permet de donner sens au fait que là, il ne l'emploie pas. C'est parce qu'il est dans une autre démarche. La seconde raison, qui est plus décisive pour moi, est le fait et la manière dont le Nouveau Testament nous présente ce défi. Et en particulier, le texte que nous avons lu dans l'Épître de Jacques, qui nous présente ce défi comme étant le fruit de la prière d'Élie. Hein, voyez comment Jacques nous en parle. La prière du juste, lorsqu'elle est mise en œuvre, a beaucoup de force. Élie était un être humain de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. L'image que nous donne ici l'apôtre Jacques est celle d'un homme qui s'implique. Il prie pour qu'il ne pleuve pas, et il persévère dans cette prière. Alors il n'agit pas tout seul, parce qu'il demande à Dieu de retenir la pluie, bien sûr, mais l'initiative est de lui, il prie, il demande, et Dieu agit en réponse à une prière, plutôt qu'en accomplissant une parole dont il aurait eu, lui, l'initiative. Et je propose que nous voyons les choses un peu comme cela, c'est-à-dire qu'Élie a eu à cœur de manifester que Dieu était vivant en Israël, et que c'est ce qui l'a amené à avoir à prier, et c'est ce qui l'a amené ensuite à aller devant Jacob avec cette parole et ce défi. Ceci dit, une fois qu'on a dit cela, et si on pense là, une question se pose immédiatement. Mais qu'est-ce qui autorise un homme à prendre une telle initiative? Qu'est-ce qui permet d'impliquer le Seigneur comme ça devant tout, et de dire, voilà, le Seigneur va agir de telle ou telle façon? Est-ce que Dieu serait à la remorque de toutes nos initiatives, voire de toutes nos lubies? C'est quand même une vraie question. Petite anecdote. Au XIXe siècle, un avocat américain qui s'appelle Robert Ingersoll, qui était, je crois, fils de pasteur, s'était opposé très très fortement à la foi chrétienne. Et c'était un orateur absolument redoutable. Et un soir, il avait fait un discours enflammé contre la foi chrétienne, et arrivé à la fin de son discours, tout d'un coup, il s'arrête devant son auditoire. Il se met devant eux, il prend sa montre, et devant tous, il s'écrie, il dit « Je donne à Dieu une chance de prouver qu'il existe. Je le mets au défi de me frapper à mort dans les 5 minutes qui viennent. » Silence dans la salle. Chacun est figé. 1 minute passe, 2 minutes. Gêné, certaines personnes commencent à quitter la salle, c'est insupportable. Tous ceux qui restent sont complètement noués, une femme s'évanouit. On approche de l'échéance fixée. Moins de 5 minutes, 5 minutes. Les 5 minutes passent. L'orateur triomphant est toujours debout, bien vivant. Il s'écrie, vous voyez, il n'y a pas de Dieu. Je suis toujours là et bien vivant. Après la conférence, un jeune homme s'approche d'une chrétienne. Il est vraiment impressionné. Il dit, waouh, ce soir, seul là, il a prouvé quelque chose de fort. La réponse de la femme est mémorable. Elle dit, oui, il a fait la preuve de quelque chose. Il a prouvé que Dieu n'est pas aux ordres des gens qui le défient et qui se moquent de lui. L'analyse est sage, est très sage. Dieu n'est pas obligé. N'est pas non plus obligé de se mettre à la remorque de n'importe quel défi dans lequel nous, chrétiens, nous voudrions l'impliquer. Et ça ramène la question, qu'est-ce qui autorise quelqu'un comme Élie à prendre une telle initiative d'un défi comme celui qu'il adresse à Akab? Qu'est-ce qui permet d'impliquer le Seigneur comme Élie le fait devant Akab? Élie avait une base. Il n'est pas seulement parti de ses idées à lui, il avait une base. Ce sont les paroles par lesquelles Dieu avait fait alliance avec son peuple. Car voilà ce que l'on lit dans le livre de l'Alliance, en Deutéronome, chapitre 11, versets 16 à 17. « Gardez-vous de vous laisser séduire en votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Car la colère du Seigneur s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que Dieu vous donne. » Voilà ce que disait l'Alliance. Et voilà ce sur quoi Élie certainement s'est appuyé, la base sur laquelle il s'est fondé. Il a agi, il a réfléchi dans le cadre de l'Alliance établie par Dieu avec son peuple. Il s'est appuyé sur la parole donnée par Dieu à Moïse. Élie et Moïse, là, font un, véritablement. Et le schéma, c'est clair. Certainement que devant la triste situation de son peuple, Élie a cherché dans la parole de Dieu un éclairage, une parole que Dieu pourrait adresser à son peuple dans cette situation, une direction pour une action. Et cette parole du Deutéronome s'est imposée à lui. Voilà le cadre donné par Dieu. Si mon peuple s'éloigne de moi, j'ai bien dit que j'allais lui fermer les cieux. Mais voilà aussi, en lisant cette parole, une occasion de véritablement faire la preuve que les Baals sont de faux appuis, eux qui prétendent justement pouvoir donner la pluie. Et voilà Élie qui se saisit de cette parole, qui prie, s'appuyant sur la parole de Dieu, pour demander vraiment à Dieu de réaliser cette parole. Voilà, me semble-t-il, la base à envisager pour ce défi que Élie adresse à Akab. Et il est possible qu'Élie ait prié tout seul pendant plusieurs mois avant de se rendre devant Akab. Ça expliquerait son expression, le Seigneur devant lequel je me tiens debout, le Seigneur que je sers. Dire, c'est pas juste de maintenant, je le sers dans la prière aussi, je suis là vraiment devant le Seigneur, constamment. Ce qui est intéressant, c'est que certains commentateurs ont relevé, c'est le fait que autant Jésus, lorsqu'il parle de la sécheresse du temps d'Élie, autant Jésus que Jacques parlent d'une sécheresse qui a duré 3 ans et 6 mois. 3 ans et 6 mois. Le livre des Rois, lui, parle de 3 ans qui s'écoulent entre le moment où Élie vient devant Akab, que nous avons lu, et le moment où il reviendra à la fin de la sécheresse. Pourquoi ces 6 mois de plus dans le Nouveau Testament? Une des possibilités serait qu'Élie a commencé justement à prier avant d'aller voir Akab. 6 mois avant, il a pris du temps pour laisser ces choses cheminer dans son cœur, pour prier, pour mettre tout ce projet devant Dieu, et ensuite seulement, il est allé voir Akab. Et on peut même imaginer le fait que peut-être la famine avait déjà commencé. La sécheresse avait déjà commencé. Et Élie voit déjà que le Seigneur l'approuve dans ce projet. En 6 mois de prière, si les saisons commencent à être un petit peu chamboulées, ça commence à se voir. Et il n'est pas du tout impossible que Élie, justement, fort de cette prière qu'il a déjà solitairement faite devant le Seigneur, vienne devant Akab et pour lui dire, cette sécheresse qui a déjà commencé, elle va durer. Et pendant longtemps, et seulement à ma parole, les choses vont changer. Élie se présente devant Akab déjà porté par le fait que le Seigneur lui a montré que les choses sont bien dans sa volonté. Et c'est ainsi qu'il a la force pour parler à Akab. Mais ça veut dire aussi qu'Élie a pris le temps, solitairement, devant Dieu, dans la prière, de préparer cela. et dans l'ouverture aussi au Seigneur. Et il me semble que cette manière de voir les choses rend assez bien compte de la façon dont Jacques nous présente cet épisode. Élie a prié et il a dû persévérer ensuite pendant tout le temps pour que le Seigneur continue à tenir bon dans ce qui était en train de se faire. Qu'est-ce que cet épisode peut signifier pour nous aujourd'hui? Je retiens trois choses. Je retiens d'abord les premiers mots d'Élie. Les premiers mots d'Élie. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant, dit-il à Acab. C'est ce qu'on voulait ne pas reconnaître en Israël à ce moment-là. Et bien des personnes autour de nous aussi considèrent que Dieu n'est pas pertinent, qu'on peut très bien vivre sa vie sans s'occuper de lui. Ayons à cœur de bien garder au centre de notre vie le Seigneur vivant. Ayons à cœur de garder vraiment cette certitude, ce souci de manifester, de vivre, d'expérimenter que le Seigneur est bien vivant, est là, réel, agissant. Comment cela se vit-il? Cela s'éprouve et se construit d'abord dans notre vie de tous les jours avec lui. Comment saurons-nous que le Seigneur est vivant? C'est en nous approchant de lui, en marchant avec lui, en le priant régulièrement, en lui confiant ce que nous vivons, en découvrant ce qu'il veut être pour nous, ses ressources pour nous au quotidien, en trouvant notre joie en lui. Cherchons ce Dieu vivant au cœur de notre vie. Bien des choses se passent autour de nous, les gens vivent, pensent toutes sortes de choses sur Dieu. Cherchons-nous à mettre au cœur de notre vie le fait que le Seigneur est là, vivant, en étant proche de lui. Ne nous laissons pas décourager si à tel ou tel endroit, dans telle ou telle circonstance de notre vie, il n'a pas agi tout à fait comme nous l'aurions imaginé. Il est vivant et il est Seigneur. Et c'est normal que parfois il ne pense pas tout à fait comme nous, c'est normal. Mais si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous vraiment. Laissons-le vraiment être un Dieu vivant en nous, en nous approchant de lui régulièrement. Et il saura, lui, nous montrer par sa présence, par son action, par ce qu'il fait pour nous, qu'il est ce Dieu vivant. Laissons-le devenir tellement vivant en nous qu'il nous devienne indispensable. Tellement vivant en nous qu'il nous devienne indispensable. C'est la meilleure réponse que nous puissions donner à la sécularisation de notre société. Un Dieu qui vraiment est tellement vivant en nous qu'on ne peut pas vivre un jour sans lui. Mettons-le au centre, lui que l'on met tout le temps sur les franges ou que l'on considère comme étant si peu pertinent. Et en le mettant au centre, laissons-le montrer dans nos vies combien il veut, combien il peut agir, nous conduire et nous donner ses ressources. Le Seigneur est vivant, mettons-le au centre. Je retiens ensuite, deuxièmement, le cheminement et l'engagement personnel dont Élie nous donne l'exemple. Il a le souci très réel que Dieu s'authentifie, que Dieu se glorifie parmi son peuple, qui pourtant est en train de s'éloigner de lui. Et pour cela, il sonde la parole de Dieu pour trouver la pensée du Seigneur face à ce qui se passe là autour de lui. Et il prie, et il demande à Dieu de se manifester. Il persévère dans cette demande. Il se laisse conduire au fil de sa prière. Et c'est ainsi qu'il manifeste vraiment le souci que Dieu se glorifie. Cultivons-nous aussi un esprit de prière, tout spécialement dans notre contexte où Dieu est relégué aux marges. Cherchons dans la prière, nourri par la parole de Dieu, les orientations. Cherchons à savoir comment prier, oui, comment demander à Dieu de se manifester dans le contexte qui est le nôtre. La prière, c'est la meilleure jonction entre l'homme et un Dieu vivant. Parce que prier, c'est demander au Dieu vivant de se manifester. Et ça laisse à Dieu le loisir de se manifester, parce qu'on le lui demande à lui. Mais en même temps, on s'implique, puisque la prière est aussi une manière d'entrer dans cette œuvre de Dieu. Saisissons les ressources de la prière dans les situations où nous nous trouvons, dans ce que nous rencontrons, dans notre souci pour notre monde, pour ce qui nous entoure. Oui, c'est une deuxième leçon de cette démarche d'Élie, de ce qu'il a suivi. Et puis troisièmement, je relève qu'il y a le fait qu'un temps vient où il faut se lancer, où il faut s'impliquer, où il faut aller au contact des personnes et des situations. Et c'est Élie qui vient devant Akab. Élie l'a fait courageusement, en s'appuyant sur Dieu. Cela l'a conduit dans sa situation à une vraie confrontation. Nous pouvons nous aussi être amenés parfois à des situations de confrontation parce que nous voulons vivre notre foi. Mais nous savons qu'il y a bien d'autres manières dont le Seigneur peut manifester aussi autour de nous qu'il est le Dieu vivant, pas simplement dans la confrontation. Nous pouvons aussi être les instruments de Dieu pour manifester qu'il est le Dieu vivant lorsque nous allons au contact de ceux qui ont besoin de secours et de soutien. Et nous pouvons être pour ces personnes-là, d'une certaine façon, la main de Dieu tendue vers eux. Et c'est une autre manière d'aller au contact. Nous pouvons aussi, par l'écoute, par la compassion active, devenir un canal par lequel Dieu fera du bien à quelqu'un, lui apportera un bienfait, répondra à une attente. Et puis nous sommes porteurs du message de l'Évangile, la parole de vie par excellence, qui manifeste que le Seigneur est le vivant qui donne la vie, une vie nouvelle, une vie éternelle, la vie qui nous offre en Jésus-Christ, le pardon, la réconciliation. Ayons à cœur, comme Élie, d'aller au contact pour apporter cela. N'ayons pas peur de dire à ceux que nous rencontrons que nous prions pour eux, que nous attendons aussi pour eux des choses de la part de Dieu. Soyons des témoins du Dieu vivant pour ceux qui nous entourent. Mais persévérons aussi par derrière, comme Élie dans la prière, pour que vraiment le Seigneur accompagne tout cela et qu'il veuille bien nous diriger et se servir de nos tentatives pour se manifester comme le vivant. Oui, assurément, aujourd'hui encore, notre Seigneur est vivant. Il est riche en grâce, en miséricorde. Il veut intervenir dans notre histoire. Jésus l'a manifesté par sa venue, par sa mort, par sa résurrection. Et l'Esprit est là pour habiter dans nos cœurs aujourd'hui et faire que l'histoire de la vie de Dieu, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, mais de l'histoire de maintenant. Vivons-le vraiment aujourd'hui. Montrons-le concrètement autour de nous et attendons-nous au Seigneur, selon sa parole, selon ses promesses. Amen.